Bonjour Olivier.
Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans le 74e épisode de Comptoiria et un invité de marque pour ce 74e épisode, Olivier Parent. Olivier donc a une formation artistique, il est de culture scientifique et technique et donc c'est la base tout ça de sa démarche prospectiviste. Olivier donc tu as un bureau d'études de prospective et tu animes en parallèle plusieurs médias. Tu écris donc dans Futur Hebdo, tu fais des vidéos et tu as le site aussi Science-Fictiologie. Et surtout aussi, je t'ai connu grâce à ton podcast, passionnant podcast que j'encourage tous nos auditeurs à écouter. Et je suis sûr qu'après cet épisode, ils vont foncer les Échos du futur qui explorent les imaginaires de la science-fiction.
Exactement.
Olivier, merci beaucoup d'être là.
C'est
une thématique du podcast. C'est la question traditionnelle de fin. Hein. Chaque invité, je lui demande son livre ou son film de science-fiction. Personnellement, moi, je suis passionné. J'ai beaucoup lu sur la science-fiction. J'adore les films de science-fiction et d'anticipation. Mais de temps en temps, ma mémoire peut me faire un petit peu défaut. Et c'est vrai que en parlant à un expert comme toi, prospectiviste, tout simplement, c'est génial, ça rappelle des souvenirs, ça ouvre de nouveaux horizons. Et je pense qu'avec les changements donc, qu'on connaît aujourd'hui, moi je parle très souvent de possibles changements de civilisation avec l'IA générative, avec ChatGPT, avec des machines à qui on a appris à penser. Harari nous a dit récemment que c'est la première révolution technologique. On se retrouve face à quelque chose, face à une invention qui pense par elle-même potentiellement. C'est très important de pouvoir se projeter un petit peu et donc vive la science-fiction. On en a plus besoin que jamais. Merci beaucoup, Olivier, d'être là.
C'est un plaisir d'avoir accepter cette invitation qui est effectivement qui me permet de partager ma passion de la prospective et que j'essaye de diffuser de manière plus simple au travers de la science-fiction qui en plus d'être tout l'intérêt c'est de montrer que la science-fiction en plus d'être un divertissement est surtout un objet de spéculation qui nous permet de donner corps à nos enquêtes sur l'avenir.
Évidemment. On va en parler, le problème à trois corps. donc, première question d'abord, Olivier. Qu'est-ce qui se passe dans l'IA générative? Comment est-ce que tu as vécu cette révolution de l'IA depuis ChatGPT le 30 novembre 2022? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais? Est-ce que ça ouvre pour toi des possibilités incroyables?
Alors, dire que je m'y attendais, faut être honnête, non. Je suis plein de sujets liés à des émergences technologiques ou non technologiques, sociales ou non sociales, etc. Donc j'ai été saisi comme tout le monde et c'est très bien d'avoir été saisi. Par contre, l'enquête que j'ai menée quand ChatGPT est devenu plus que visible, c'est-à-dire que quand l'iceberg nous est arrivé
bien sûr
dans la gueule, ça a été de me replonger en fait sur le concept d'intelligence artificielle générative et la réflexion sur le procédé qui a permis d'arriver à des algorithmes génératifs comme ChatGPT, comme Gemini, etc., qui étaient d'abord, avant tout, des algorithmes qui ont été entraînés pour comprendre ce qu'on leur désignait, comprendre que le mot « chat », eh bien, derrière, il y a un concept, alors qui est un algorithme, ou derrière une image avec un rond et puis deux petits triangles au-dessus, c'est un chat, etc. Donc, en fait, c'est les humains qui ont commencé par nourrir les algorithmes de leur connaissance pour permettre, dans un deuxième temps, à ces algorithmes de partir d'un bruit, d'un flou gaussien, pour faire simple, pour qu'ils voient, et donc petit à petit, en fait, de réassembler ce bruit pour aller vers le signifiant qui était demandé. En fait, moi, c'est ça qui m'a fasciné dans un premier temps, c'est de voir cette construction en deux temps, où d'abord il y a eu cette phase d'apprentissage pour après avoir la capacité de générer ce qui était demandé. Ce qui rappelle bien qu'il n'y a pas de conscience dans l'algorithme pour le moment. On verra dans l'avenir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience de l'acte qui est posé. C'est-à-dire que on répond. On répond à une requête, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. L'exemple le plus courant qu'on peut donner, c'est de demander à un ChatGPT d'écrire un sonnet en enlevant une lettre, écrire un sonnet sans la lettre E, sans la lettre A, etc. Il va le faire, il va réussir à peu près sur le premier vers. Au deuxième vers, il commence à être bancal, et à la fin, c'est fini. Parce qu'il n'y a pas de conscience. Donc, il n'y a pas... on le sait pour les gens qui ne le savent pas, l'unité de base en IA générative texte, l'unité de base, c'est pas la lettre, c'est un token. Donc, et un token, c'est quoi? C'est une quantité statistique. Donc le token, on ne sait pas si c'est un A, si c'est une voyelle, si c'est une consonne, etc. C'est simplement qu'on appelle le token parce que statistiquement, il doit être celui-là à cette place pour tendre vers la requête qui y est demandée. Mmh. Et en fait, cette enquête, elle est très importante parce qu'elle permet de remettre... Je suis un peu cynique, hein, de remettre l'IA à sa place, qui est un outil extraordinaire, mais qui ne reste pas moins qu'un outil. Et moi, ce qui m'amuse dans ma pratique, alors déjà, avant de m'amuser, ça a été d'abord, il y a eu un coup de douche froide. Je me dis, mais quand on voit les capacités, etc., de ces algorithmes, ouais, qu'est-ce qui me reste, moi, en tant que prospectiviste, parce qu'effectivement, on peut tirer des ficelles, faire des conjectures, etc., etc. Et puis, bon, assez rapidement, en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est que on arrive à faire chuter l'IA assez facilement, c'est-à-dire à lui faire dire des choses qui sont fausses. On pourrait dire que l'IA confirme l'adage populaire qui veut que la nature a horreur du vide. Quand l'IA ne sait pas, elle génère. Pourquoi? Parce que un ChatGPT, un ChatGPT, il a été entraîné pour entretenir une conversation.
Bien sûr.
Donc, la conversation, il n'y a pas de notion de vrai ou de faux pour elle, il n'y a pas de notion de morale, ça n'est qu'un outil. Donc s'il y a un blanc, elle va générer, elle génère du sens, qu'il soit en lien ou non, qu'il soit correct ou non par rapport au sujet, l'IA, ça ne la gêne pas. Donc, faire cette démarche...
D'accord. Aristote, la nature a horreur du vide. Et donc, les LLM remplissent les conversations. Donc, en permanence, ils sont entraînés pour ça. Ce qui est bien agréable, hein, parce que s'ils s'arrêtaient au milieu de la conversation, ça pourrait être un petit peu gênant, quoi.
Exactement. Non, mais c'est bien pour ça que c'est important de remettre ces algorithmes dans la position qui est la leur, qui est la position d'outil. Et donc, ce qui fait que moi, personnellement, je me suis appliqué à essayer de trouver quel usage je pouvais en avoir, un usage que j'ai voulu, même si je reste un grand enfant, hein, je reste fasciné. Enfin, moi, toutes les prouesses technologiques de l'humanité, pour moi, sont un plaisir incessant. Donc j'ai essayé de trouver quel pouvais-je avoir comme usage. Donc c'est sûr qu'il y a toutes les notions, enfin tous les outils de résumé, etc. C'est ultra pratique. Mais par exemple, moi j'ai un usage. C'est très restrictif. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais comme j'aime le français, je me sers très souvent de ChatGPT comme dictionnaire inverse. Oui. Je sais qu'il y a un mot. Je sais qu'il y a un mot qui désigne la goupille au bout du mât, du machin, chose, etc. etc. Je ne sais pas quel est ce mot, je rentre la définition et ChatGPT va me fournir le mot. Et ça, c'est très important, parce que comme j'écris beaucoup, je cherche toujours à avoir un vocabulaire assez précis. Donc, je trouve ça assez génial. Hein, voilà. Ça permet aussi de faire attention aux fautes de syntaxe, aux fautes de français. Ça permet de faire des textes qui sont justes, etc.
D'accord,
Ça
je peux
permet
être.
de.
C'est ton scribe, ChatGPT.
Ouais, exactement, exactement. Mais alors pourquoi peut-être que j'agis aussi en réaction peut-être à des comportements que j'ai pu constater autour de moi où les gens vont considérer ChatGPT ou ses algorithmes hein, un petit peu comme des pitis, hein, c'est-à-dire que j'ai une question plus ou moins existentielle ou une question professionnelle, etc. Et j'interroge l'algorithme et je vais peut-être prêter une attention plus ou moins forte à la réponse qui va être apportée. Et
Ouais.
ça me fascine. Voilà, que des
Ouais.
gens puissent envisager un usage aussi intime de l'algorithme, là, il y a une question de société qu'il faut.
Mais je crois qu'on les gens confient à l'algorithme. En fait, je crois qu'on avait déjà vu ça avec Elisa, donc un des premiers programmes d'intelligence artificielle, enfin, qui était un exercice de questions-réponses dans les années 60 ou 70. Et il me semble qu'on avait déjà constaté ça au niveau psychologique, en fait, que les gens sur ce ELISA, qui fonctionnait surtout hein, sur de la reformulation de phrases pour les transformer en questions et inversement, on s'était rendu compte que cet ELISA, enfin, finalement, les gens n'avaient pas trop de limites et qu'ils lui posaient, ils se confiaient peut-être plus qu'à une personne normale ou à la personne qui était dans la pièce avec eux, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Non, c'est sûr que, c'est sûr que ce, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas les mêmes liens de relation qu'on peut avoir avec une autre personne humaine. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est plus, on va dire, on tend vers, c'est-à-dire que l'IA, dans son aboutissement ultime, qui est censé être une IA générative, sera la première altérité à laquelle l'homme sera confronté.
Une IA générative et générale sera une altérité. Donc, tu veux dire, qu'est-ce que tu entends par altérité? Un alien?
Exactement, voilà. En fait, c'est-à-dire que, alors, on peut considérer que sur Terre, il y a d'autres formes de vie qui pourraient être intelligentes, que ce soit chez les cétacés, peut-être certains primates, etc. Mais on n'a pas
Exactement.
encore.
Je suis pas revenu tout à l'heure sur la conscience dont tu parlais, mais j'ai vu récemment, tu vois, un petit schéma, tu vois, qui te représente la conscience en tant que spectre et sur les différentes espèces, quoi, tu vois, et tu vois l'homme, les chimpanzés, le singe, le chien, et tu avances après vers la droite, tu vois, jusque aux reptiles, aux lézards, aux vers de terre. Ils te mettent très très loin. La méduse, quoi, tu vois, enfin, qui a un niveau de conscience, en tout cas, qui semble très faible sur une échelle de 1 à 10. Voilà.
Ben, en fait, je pense qu'il faut, si on parle de conscience, il faut commencer par parler d'intelligence. Et il y a un piège marketing qui a été tendu à l'humanité, qui est l'usage d'intelligence artificielle, donc l'usage du mot intelligence dans le vocable intelligence artificielle, sachant que communément, il est plutôt admis que l'intelligence est la capacité d'organiser le réel. Et la conscience est la capacité de réflexivité, c'est-à-dire la capacité, bah, c'est ce que dit Descartes dans son cogito ergo sum, je pense donc je suis, j'ai conscience que je suis en train de penser, donc je suis. Donc j'ai à la fois la capacité d'intelligence, d'organisation du réel, donc effectivement, je sais qu'une main humaine, elle a 5 doigts, alors que les premières générations d'IA générative d'images n'avaient aucune gêne à générer des mains à 6 doigts,
Bien sûr,
etc. Donc, voilà. Donc
ouais.
j'ai la capacité d'organiser le réel, donc de comprendre les liens, les interactions qu'il y a, etc. Et j'ai conscience, donc je suis en capacité de dire que j'ai une activité intime, interne, qui est indépendante de ce qu'il y a autour de moi. Mais par contre, je vais être en capacité de structurer ma relation à mon environnement en fonction de la connaissance que j'en ai et de cette activité intime que je peux tourner après vers l'extérieur. Et ça,
Donc
on
on est sur
peut.
la théorie de l'esprit aussi, alors ça.
je ne sais pas si c'est la théorie de l'esprit, mais je pense que c'est, ce sont ces deux éléments, intelligence et conscience, tels que je viens de les dire, permettent un petit peu de remettre les IA génératives à leur place, qu'il ne reste que des outils d'une puissance mais extraordinaire et qui n'en sont qu'à la première génération.
Évidemment.
C'est-à-dire que il y a de fortes chances que dans les 3 ans, 5 ans qui viennent, ChatGPT paraisse être un vulgaire primate par rapport aux générations qui arrivent.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on va quand même conserver ces modèles, parce qu'au final, ces modèles, ils sont stockés quelque part, hein, ils peuvent être stockés sur un grand CSV. Et comme on peut voir, tu vois, moi, ça m'arrive... pour des exemples en formation, tout ça, de générer des images avec Midjourney sur le modèle version 1, en fait, pour comparer, tu vois, ce qui sort avec la version 6. C'est sûr que ce sera fascinant dans quelques années d'aller regarder ce que GPT 3.5 nous sort par rapport à un GPT 6 qui est déjà dans les tuyaux d'après ce que nous a dit Sam Altman, lequel il travaille déjà. Olivier, je t'ai entendu tout à l'heure, j'ai ton expression m'a beaucoup intéressé. Tu as dit qu'on s'était pris un iceberg, qu'on s'était bouffé un iceberg avec l'arrivée de l'IA générative. Je partage en tout cas un truc énorme, un truc peut-être que dans cette image de l'iceberg, peut être très bien choisie la métaphore, parce que peut-être qu'il y a encore plein de choses en dessous qu'on ne mesure pas, qu'on n'imagine même pas. Donc ça me plaît beaucoup et que le plus gros reste à venir. Je viens de regarder une interview de Nate Friedman, donc cofondateur de GitHub et Matt Mostak, Stable Diffusion. Ex-Stable Diffusion maintenant, je crois, ex-Stability. Et Nate Friedman, il avait une expression que je trouvais incroyable, qui me fait penser à ce que tu disais sur l'iceberg. C'est, pour lui, c'est l'IA générative. C'est comme si on avait... Enfin, c'est découvrir, en fait, un nouveau continent sur lequel il y a 100 milliards de personnes, 100 milliards de personnes, qui sont prêts à travailler pour nous, pas gratuitement, mais qui sont prêts à se mettre à notre service. Et cette image, je l'ai trouvée très très forte, très puissante.
Alors, pour en revenir à mon image de l'iceberg, je reviendrai peut-être
vas-y.
Après coup sur effectivement c'est possible 100 milliards de personnes. Moi, ce qui m'a l'iceberg que j'ai ressenti, c'était l'arrivée dans le domaine du grand public d'un outil qui, en termes d'intelligence artificielle, qui était réservé à des domaines très professionnels. L'intelligence artificielle avant ChatGPT, avant l'intelligence artificielle générative, était des intelligences artificielles prédictives, donc qui reposaient sur des outils, sur des manières de faire liées à des activités professionnelles très très particulières. Il fallait avoir des connaissances scientifique, technique, ce qu'on veut. En tout cas, on était très loin de tout usage, pour le grand public. Ce qui est fascinant avec l'intelligence artificielle générative, c'est qu'on a tout d'un coup la capacité d'interagir avec ces algorithmes en langage naturel, que ce soit par le texte, par l'image, bientôt où c'est déjà fait par le geste. Pour les personnes malentendantes, elles vont pouvoir signer directement et l'IA interprétera le langage des signes, etc. Et c'est ça en fait qu'il y a de fascinant. Et c'est fascinant, c'est objectivement fascinant. Je viens d'écrire un article pour... une institution sur la robotique.
Ouais.
Ce qui est génial, et tu l'as montré lors de ton dernier meet-up, ce qui est génial avec l'intelligence artificielle générative et les LLM, c'est qu'on peut maintenant s'adresser en langage naturel à des objets dotés de capacités physiques. Un robot, pour faire simple. Donc, on est libéré du codage, on est libéré de... d'interfaces complexes et rugueuses, etc. On tend vers le seamless, on tend vers la technologie sans couture. Ouais. C'est ça qui est fascinant. Et donc c'est cet iceberg, moi, que je me suis pris, comme beaucoup de beaucoup de personnes sur Terre dans la figure, c'est cet iceberg, parce que tout d'un coup, on avait entre nos mains une puissance extraordinaire avec une interface des plus intuitives et des plus simples, le langage. Et c'est ça qu'il y a de fascinant. Après, effectivement,
le langage, comme l'a dit Harari le langage qui est d'une certaine manière qu'il appelle le système d'exploitation de la société.
Tout à fait.
Grosso modo, on a hacké avec ChatGPT.
Hacké ou augmenté.
Très bien.
Quand on regarde la science-fiction, parce que la science-fiction, enfin, à la base, c'est un divertissement, et principalement pour le cinéma de science-fiction, il faut remplir les salles, hein, sinon il y aura pas d'œuvre. Donc, naturellement, indépendamment, on va dire, de l'ambiance collective, sociale, etc., on fait mieux vendre sur une catastrophe que sur des sujets sérieux, sages, etc.
Donc ce phénomène qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, hein, en fait, que au final des posts qui peuvent être négatifs, critiques sur Instagram, sur Twitter, vont être au final certainement peut-être plus engageants. On a la même chose qui se passait et qui se passe sur le remplissage des salles obscures, en fait. Et ce qui expliquerait peut-être alors une partie des fins dystopiques de toute la SF en film dont on est abreuvé depuis 40 ans.
Alors, oui et non. Je pense que si on revient à l'origine de la science-fiction dans sa forme cinématographique, avant le cinéma, ce sont des romans. Et derrière ces romans, il y a des auteurs qui sont des artistes à part entière, qui sont comme des sismographes, qui pressentent, qui sentent qu'est-ce qui est en train de se jouer dans la société au niveau des comportements, au niveau des émergences technologiques, ce qu'on veut, etc. Et donc, ils vont retranscrire dans leurs histoires. Quand Philippe K. Dick écrit « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?», qui est à l'origine de Blade Runner, qui est le premier pilier du cinéma de science-fiction avec une esthétique qui a très bien vieilli. Il y a eu des choses avant. Hein. Il y a eu bien sûr 2001, l'Odyssée de l'espace, mais il y a eu aussi des choses intéressantes mais plus fragiles comme Silent Running. Voilà. Mais Blade Runner, on a, comme 2001, on a un objet. Alors pour 2001, c'est le space opéra. Pour Blade Runner, c'est ce qui va devenir le cyberpunk après le neuromancien de Gibson. Donc le mot a été inventé pour Gibson, mais il s'applique très bien à Blade Runner. Quand Philippe K. Dick écrit son roman, il n'écrit pas de la dystopie, mais il pressent qu'il y a des enjeux, qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer, qui vont, si on ne les maîtrise pas, qui vont dans le sens de... Qu'est-ce qu'il dit ? Il décrit une société post-industrielle qui n'a pas maîtrisé son développement et qui a abouti à un effondrement et du climat et de la biodiversité. C'est un des enjeux de notre réel. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que dans l'espace, si l'humanité quitte la Terre, on va continuer à avoir les mêmes enjeux de pouvoir, de concurrence qu'il y a sur Terre. C'est exactement ce que Elon Musk essaie de nous faire croire à l'inverse, pour essayer de nous vendre son enthousiasme. Mais on sait très bien, et d'ailleurs on voit les luttes qu'il y a eu au moment de la première conquête de la Lune entre la Russie et les États-Unis. Là, on le voit entre les États-Unis et puis la Chine. L'humanité restera humaine avec toutes ses passions, avec toutes ses merveilles, mais aussi tout ce qu'elle a de pire dans l'espace. Donc, et qu'est-ce que dit aussi Philippe K. Dick ? Il pose une question, alors que l'ADN n'a été découvert que 6 ans, 7 ans, 8 ans, on va dire, après qu'il ait écrit son roman. Donc, le code de la vie, il pose la question, est-ce que une forme de vie dont le code génétique a été écrit par l'ingénierie humaine peut-elle tomber sous la propriété industrielle ? puisque qu'est-ce que sont les réplicants dans Blade Runner? Ce sont des humains dont le code génétique appartient à la Tyrell Corporation. Donc, ce sont des humains de synthèse qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes. Et donc, on a vu dans les 20-30 dernières années des tentatives de personnes plus ou moins bienveillantes qui ont tenté de breveter du vivant. Il y a cette histoire de cet Américain qui est allé passer ses vacances au Mexique, dans une vallée, on s'en fout, qui a ramené 2 kilos de haricots rouges qu'il a trouvé très bon. Il a fait séquencer le génome de cet haricot rouge, a breveté ce génome et a cherché à être rétribué auprès de populations qui, depuis des générations, depuis la nuit des temps, vivent, se nourrissent de cette plante. Heureusement, il a été débouté. Mais on a vu, il y a eu des tentatives de breveter des séquences de l'ADN humain. Donc, Philippe K. Dick, il a toutes ses intuitions. Et donc, il raconte toutes ses intuitions qui sont le pire dans lequel on puisse aller, parce qu'il sent que si on peut le faire, on va le faire. C'est le principe, c'est la loi de Murphy, ce qui peut tourner mal va tourner mal.
D'accord.
Et c'est exactement ce qu'on
fait. Donc on va voir ces réplicants. Là, d'une certaine manière, c'est ce qu'on voit arriver avec tous les robots. 2024, ça risque d'être un peu l'année de la création, hein, de la création des robots humanoïdes qu'on contrôle donc par les LLM.
Alors, moi, je dirais plutôt 2024 et les années qui suivront risquent plutôt d'être, on risque plutôt de pénétrer dans un film comme I, Robot avec Will Smith de Proyas, qui est l'adaptation d'un cycle de nouvelles qui s'appelle Le Grand Livre des Robots d'Isaac Asimov.
Oui.
Donc premier cycle d'Asimov dans laquelle il met au point ses lois de la robotique qui en trois lois organise les relations entre un système artificiel autonome avec l'humanité. Où globalement il est dit que le système ne peut rien faire de mal à l'humanité. Voilà, et que même si on le commande pour faire n'importe quoi, il ne peut pas le faire, etc. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Ce sont trois lois qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et en fait, là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'Asimov, dans ses romans, que ce soit le grand livre des robots ou le cycle d'Elijah Bailey ou son grand cycle de fondation, en fait, il se pose pas la question de la conscience. Mmh. Il admet que ce sont des algorithmes extrêmement puissants qui singent à la perfection le comportement humain et qui vont avoir peut-être des intuitions ou des éclairages que l'humanité ne peut pas avoir sur elle-même parce que il y a effectivement, comme tu disais, ces 100 milliards de personnes qui peuvent travailler donc dans le cas des robots d'Asimov, ce sont ces robots positroniques avec leurs 100 milliards de paramètres, etc. Mais il n'est pas posé la question.
Asimov ne pose pas la question de la conscience, non. Alors que K. Dick la pose donc de manière très claire, très nette, avec les androïdes qui rêvent de moutons électriques, c'est ça?
Oui, parce que dans le cas de. Alors, je parle du film, hein, de Blade Runner, parce que c'est moins clair dans le. Mais dans le film, ce sont des êtres biologiques.
Bien sûr,
en fait. Il n'y a de différence entre un réplicant et un humain que l'ADN qui a été codé ou non.
D'accord. Et donc, que la propriété donc pour la mégacorp qui les a créés. D'accord. Donc, Asimov, oui, ça, c'est intéressant. Asimov, on ne parle pas de conscience. OK, je vois ça dans son œuvre. Tu parlais des lois de la robotique. Tu me disais en préparant qu'il y avait une loi zéro aussi, en fait. Ouais.
Tu peux en fait, c'est-à-dire que, ouais, bien sûr. En fait, donc... on va dire il y a trois grands cycles chez Asimov. Donc il y a le grand livre des robots, donc où on suit entre autres un personnage qui s'appelle le docteur Kelvin, qui est robot psychologue, donc qui est la première psychologue pour robots. Donc elle est la première à triturer non pas le robot en tant que en levant le capot, mais dans son comportement, ce qu'on fait quand on est avec ChatGPT, on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir des hallucinations. Donc, c'est bouche-trou que l'algorithme va faire parce qu'il détecte le vide. Et donc, le docteur Calvin, qui est avec des machines qui répondent déjà aux trois lois de la robotique, va être confronté à différentes situations qui sont liées aux mensonges, etc., etc. Donc ça, c'est une période qui est très proche de la nôtre, qui pourrait commencer, comme on l'a dit, avec 2024, peut-être un petit peu plus tard, ça on verra. Mais on est vraiment très, très proche. Et ouais. Puis après, il y a un autre cycle, donc, qui est le cycle d'Elijah Bailey. Ce sont trois romans qui se passent dans un avenir plus ou moins lointain, on s'en fout, mais un avenir dans lequel l'humanité s'est scindée en deux. Il y a d'une part l'humanité terrestre, donc, qui vit dans des grandes villes qui sont souterraines. L'humanité s'est coupée de son lien avec la nature, avec les cycles naturels. Toute la planète ne vit que sous un même fuseau horaire, ouais. Peu importe où on se trouve sur la planète. Et l'autre partie de l'humanité, c'est ce qu'on appelle les spatiens, donc 50 mondes, donc peut-être autour de 50 étoiles qui ne sont pas très loin de la Terre, en tout cas suffisamment loin, ouais. Pour compter en années-lumière. Et donc, ces 50 mondes, à la différence de la planète Terre, sont connectés d'une part avec les rythmes naturels, mais surtout ont conservé les robots. Alors que sur Terre, les robots sont interdits ou en tout cas sont détestés parce que le robot, c'est le grand remplacement, vole ouais. le travail, etc., etc. Donc, il y a une détestation sur Terre pour les robots, alors que les spatiens, eux, vivent complètement avec leurs machines et suivant les planètes dans lesquelles on va, il peut y avoir des proportions plus ou moins élevées de robots. Voilà.
D'accord, donc scission très intéressante. Et qu'est-ce qu'on nous conseille par rapport à ça?
Eh bien, en fait, en trois romans, ce que Asimov tire comme conclusion, c'est que répondant aux lois de la robotique qui fait que globalement le robot doit protéger l'humain et donc anticiper aussi bien les risques que ses besoins, finalement le robot anthropomorphe qui accompagne au quotidien l'humanité prive l'humanité de toute initiative, donc stérilise l'esprit d'aventure de l'humanité. Et c'est donc à la fin du cycle, alors là je spoil un petit peu, c'est à la fin du cycle d'Elijah Bailey que le héros robot, les deux héros robots en arrivent à la conclusion que si les lois de la robotique régissent les relations entre l'humanité, enfin entre les humains et les systèmes artificiels, si on veut se dégager du risque de stérilisation, c'est-à-dire il faut poser un principe zéro qui est la loi zéro de la robotique, qui est que avant de protéger l'individu humain, la robotique doit protéger l'humanité.
D'accord, d'accord.
Et que pour protéger l'humanité, la robotique va faire le choix de se retirer de l'humanité. Et c'est tout l'enjeu. Et c'est tout l'enjeu après donc du cycle de fondation.
Et donc ça veut dire qu'ils nous abandonnent parce que sinon en fait on risque de finir un petit peu comme dans Wall-E, dans le vaisseau spatial, obèse et sur un siège qui se déplace avec une forme de lévitation magnétique sur un iPad et avec un gros milkshake à la main, quoi. Et ça, grosso modo, c'est pas la plus grande ambition qu'on peut avoir pour l'être humain.
Alors, c'est exactement ce que décrit Asimov dans un roman qui s'appelle « Face au feu du soleil », où l'action oui. se déroule sur un des 50 mondes spatiens, sur Aurora, sur Solaris, pardon, où l'humanité est tellement entourée, tellement accompagnée de machines qu'on compte peut-être un humain pour 200 robots anthropomorphes, deux. La population humaine s'est effondrée. Trois, tout se fait en téléprésence. Et quatre, les rapports sexuels sont devenus une obligation qu'on fait avec dégoût parce que le contact physique avec l'autre est devenu quelque chose qui est socialement impropre. prohibé, sale, ce qu'on veut, etc. Et donc, c'est. Voilà, donc c'est
quelque chose qui peut nous parler, quelque chose qui peut nous parler. On peut peut-être on peut voir ça aussi avec quelques années d'avance, par exemple au Japon, hein, je ne sais pas. Très intéressant, très très intéressant.
C'est le syndrome de la cabane. C'est le syndrome de la cabane.
Le syndrome de la cabane.
Ouais, ou de Peter Pan.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Donc en fait, le cycle se finit sur un autre roman. Où donc, les robots disent « Ok, on va laisser l'humanité à elle-même, voilà, et l'humanité repart à la conquête, alors que depuis des millénaires, elle n'avait plus étendu sa présence au-delà des 50 mondes, les 50 mondes spatiens. Le roman se finit sur l'humanité qui essaime à nouveau et… C'est le début de ce qui va devenir l'empire galactique de l'humanité, qui sera le terrain de jeu du cycle de fondation.
Ah, génial.
Où on reverra réapparaître l'IA. Elle est pas loin, mais elle a une autre position.
Alors, génial. Fondation, moi, c'est un de mes ouvrages préférés. J'ai des gros tomes chez moi. Je l'ai lu à plusieurs reprises. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Fondation, justement? On en arrive là. Et alors, justement, moi, je suis fasciné par un concept développé par Harry Seldon qui est celui de la psychohistoire. comme quoi, en faisant des statistiques sur une grande échelle de temps, en tout cas, on peut prévenir des événements, des changements d'empire, des grandes évolutions. Est-ce que tu peux nous partager un peu quelques réflexions sur Fondation donc, et la psychohistoire, Olivier?
Tout à fait. Alors déjà, il faut déjà rappeler que Isaac Asimov, avant d'être un romancier, c'est un scientifique. Je crois qu'il était biochimiste. Et donc, il a écrit plus d'ouvrages de vulgarisation scientifique que de romans.
Alors qu'il a déjà été prolifique. Donc,
voilà, exactement. Non, mais il a. Voilà. Alors, c'est à la base un scientifique. Donc, pour lui, la psychohistoire n'est bien qu'une pseudo-science. C'est pas une science. Donc, voilà. Effectivement, aujourd'hui, on pourrait se dire, mais on commence à avoir peut-être les outils génératifs qui pourraient essayer de donner corps à la psychohistoire. On le voit par exemple sur des systèmes aussi complexes, par exemple que la météo, ouais, qui était tenue en échec par les algorithmes d'intelligence artificielle prédictive. Quand on applique l'intelligence artificielle générative sur les modèles, on arrive à des résultats qui sont plus fins.
Très bon exemple, Olivier, c'est sûr. On vient de voir des projets extraordinaires, une recherche incroyable par rapport à ça qui montre cette puissance de l'IA générative versus ce qu'on a depuis des années sur l'IA prédictive.
Et donc, on se dit, bon, bah, si on y arrive sur un système aussi complexe que la météo, on pourrait peut-être essayer de l'appliquer à l'humanité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ça a déjà été tenté. Il y a déjà aux États-Unis des algorithmes prédictifs de comportements qui ont été tentés pour, entre autres, pour des raisons de sécurité, pour pouvoir soit envoyer des forces de sécurité, soit des pompiers, soit la police, etc., sur des zones en fonction de prédictions des algorithmes. Le problème, c'est que les algorithmes y restent biaisés parce qu'ils sont nourris par les êtres humains, et comme par hasard, c'était des quartiers soit noirs américains, soit latinos qui étaient systématiquement ciblés. On a vu ce qui s'est passé il y a de ça quelques semaines, quand Gemini s'est mis à générer des nazis africains, il y avait un problème. Donc,
les Black nazis, en effet, oui. Voilà.
Donc, on est bien confronté au fait qu'il y a des biais dans les algorithmes parce que c'est nourri par nos propres biais, par nos propres peurs ou nos propres je ne sais quoi, etc.
Et ensuite, par la culture et par la volonté de celui qui entraîne ces modèles, et d'où les biais wokistes de Google.
Voilà. Donc, si on en revient à notre psychohistoire. Donc, qu'est-ce que c'est que la psychohistoire? On pourrait dire que c'est une application comme on le fait sur la météo, donc à l'échelle de l'humanité. Il faut savoir que Asimov s'est imposé trois lois, trois règles pour sa psychohistoire. Un, il dit que la population observée doit tendre en nombre vers l'infini pour amoindrir au maximum le caractère non prédictible de l'individu. Deux, il dit que la population observée ne doit pas savoir qu'elle est observée. Pareil pour atténuer les comportements qui sortiraient des statistiques. Et trois, surtout, c'est que, et c'est entre autres, moi, c'est ce qui me plaît dans l'œuvre d'Asimov, c'est qu'il a considéré la galaxie comme étant que humaine. Ouais. Il n'y a pas d'extraterrestre chez Asimov, parce que sinon, bah, il dit, bah, si je rajoute l'extraterrestre dans mes histoires, j'ai mes paramètres qui tendent vers l'infini.
Parce que bien sûr, parce que l'extraterrestre à ce moment-là est un deus ex machina dans à n'importe quel moment du bouquin, évidemment.
Voilà. Et puis, ben, comme on ne sait pas quelle forme, ni quel comportement, ni quelle culture, ni quelle technologie il apporterait, donc il apporterait avec lui une quantité de paramètres qui ferait que si la psychohistoire reste une pseudo-science, peut-être qu'il y a des gens qui seront tentés de l'appliquer avec les capacités proposées par les IA génératives. En tout cas, du point de vue d'Asimov, ça devient une forme de prudence. Mais ce qui a, en termes de contraintes artistiques, ça fait des passages quand il raconte les colonisations humaines qui sont juste géniales, parce qu'il dit, voilà, finalement, l'humanité, au plus gros, elle a trouvé sur les planètes qu'elle colonisait des mousses, mais rien de beaucoup plus gros. Voilà. Donc, on était resté vraiment sur des formes de vie. Donc, on va dire que la vie, la galaxie était pleine de la vie, mais des formes très, très simples. Et l'humanité a apporté la complexité. Et donc, la Terre est la seule planète de la galaxie qui aura développé une vie aussi complexe qui va lui permettre d'essaimer dans toute la galaxie. Et je pense que c'est important.
On est content par rapport au paradoxe de Fermi là-dessus.
Non, là, on va loin.
Parce que c'est ça, bah, non
le paradoxe de Fermi, c'est, pour faire simple, s'il y a des extraterrestres, où sont-ils?
Oui, oui, oui.
Puisque globalement, notre galaxie a de l'ordre de 10 ou 12 milliards d'années, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, notre système solaire a 4,5 milliards d'années, ce qui veut dire qu'avant notre système solaire, dans toute la galaxie, il y a eu suffisamment de systèmes solaires, donc de planètes, sur lesquelles se sont développées des civilisations pour qu'elles aient des milliards d'années d'avance par rapport à nous. Donc, s'il y a ces civilisations, où sont-elles?
Oui.
Donc, il y a plein de réponses qui sont à apporter à cela. C'est soit, bah, en fait, il n'y a personne,
ouais.
Ou en tout cas, il y a tellement peu bah, que finalement, c'est comme s'il y avait personne.
De la mousse, quoi.
Deux, c'est qu'il n'y a aucune capacité pour une forme de vie de se déplacer à l'échelle de la galaxie. Il ne faut pas oublier que l'étoile la plus proche de la Terre est à 4,5 milliards d'années, d'accord ? 4,5 années-lumière de la Terre.
Ouais.
Si on utilisait la sonde Parker, qui est l'objet humain le plus rapide que l'humanité n'a jamais produit, il faudrait encore 6000 ans pour se déplacer de la Terre à Proxima du Centaure. Voilà, donc c'est bien il faut bien prendre conscience des échelles galactiques qui sont énormes. Il y a aussi le principe de la forêt noire, donc qui est développé par Liu Cixin. Alors pareil, je spoil, je suis désolé.
Vas-y.
Quand on est seul dans une forêt entourée de choses qu'on ne connaît pas, des monstres, des loups, etc., on fait pas de feu. On reste silencieux.
Bien sûr. Donc
peut-être que toutes les formes de vie se disent « Oh, je ne sais pas ce qu'il y a, s'il y a quelque chose, je ne sais pas ce que ça va être. Est-ce que ça va être bienveillant ou non? Est-ce que je ne serai qu'une fourmi par rapport à ces formes de vie? » Donc, je ne dis rien.
Ouais.
Voilà. Donc, il y a plein de solutions au paradoxe de Fermi. Mais en tout cas, s'il y a extraterrestres, donc ce seront s'ils se présentent, ce seront donc une altérité. On en revient à l'altérité. Tu as utilisé le terme d'extraterrestre tout à l'heure. Donc, le paradoxe de Fermi fait que pour l'instant, il n'y a pas, pas d'extraterrestres. Mais par contre, on a peut-être des extraterrestres sur la planète Terre. Ça peut être les formes de vie les plus complexes avec lesquelles on n'a pas développé les moyens de communication. Peut-être qu'on ne sait pas parler baleine.
Ouais.
Donc, on n'arrive pas à parler baleine ou on n'arrive pas à parler dauphin, etc. Donc, peut-être que les algorithmes génératifs vont peut-être nous accompagner et nous aider dans le développement d'une communication, et là on va peut-être découvrir des consciences qu'on n'imaginait pas, mais peut-être qu'avant cela, ben, la prochaine altérité, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est l'intelligence artificielle quand elle sera devenue générative. Parce que là, il faut bien comprendre, moi j'aime bien ces deux notions, il y a les intelligences artificielles étroites ou faibles, après il y aura les intelligences générales ou fortes, et après il y aura peut-être les super intelligences. Là, il faut bien avoir conscience qu'on a des algorithmes qui sont compétents que dans un seul domaine. Alors que moi, en tant qu'être humain, toi, en tant qu'être humain, on est multicompétents de front dans plein de domaines. Ne serait-ce que toute l'intelligence non consciente qui fait que mon organisme est vivant.
Bien sûr.
Et me maintient en vie. C'est une question que je pose par rapport à les prochaines générations d'intelligence artificielle, où on dit oui, risque de ci, risque de ça, risque de soumission de l'humanité.
Oui, bien sûr.
Mais si on mettait ne serait-ce qu'un principe d'effort dans les algorithmes, effectivement, pour l'instant, les algorithmes, un, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire, et deux, ils n'ont pas conscience des efforts qu'ils produisent. Quand AlphaGo a battu Seedol au jeu de Go, d'accord, oui. Donc on avait 1,4 kg de matière grise qui a été battue rien qu'en puissance électrique, hein, par 50 000 cerveaux humains. Parle juste de la puissance électrique.
Ouais.
Notre Coréen, il a une psyché, il a un corps, donc il a un soma. Donc, il a fait avec toutes les contingences de sa nature, alors que l'ordinateur, derrière lui, n'avait aucune conscience de n'importe quelle contingence.
Oui, il était spécialisé, et tout à fait, versus, et c'est quoi, c'est Alpha Zero qui sort derrière, qui n'est ouais, pas spécialisé, en fait, pour le coup, ouais, et qui peut être appliqué à n'importe quel type de jeu.
Et qui a appris lui-même à jouer au jeu de Go. Et donc, en fait, c'est-à-dire que moi, c'est ça qui m'intéresse. On peut effectivement, et il y a effectivement une peur qui est objective de dire, ah, mais ces algorithmes, ils vont tout nous prendre, etc., etc. Mais on peut les considérer soit effectivement comme des concurrents, soit comme des accompagnateurs, soit comme des assistants, soit comme des moyens d'augmenter nos comportements, nos gestes, etc. Et je ne parle pas de transhumanisme, hein. Je parle simplement d'une capacité technique qui vient améliorer nos savoir-faire, etc. Et donc pour nous protéger aussi peut-être de ces notions de concurrence. Donc, il y a la notion d'effort. C'est une question que je pose. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas mettre dans les algorithmes une notion d'effort? Quand je fais 2 plus 2, bah, j'ai dépensé tant d'énergie. Cette énergie, elle provient d'infrastructures que l'humanité met à ma disposition.
Bien sûr.
Donc, est-ce qu'il ne faut pas que je développe d'autres stratégies,
ouais,
de calcul pour être plus économe et avoir conscience des infrastructures qui sont à ma disposition. Et donc là, c'est pour ça que je dis qu'on est face à une... En fait, avant de l'altérité extraterrestre, on risque d'être face à l'altérité artificielle.
Certainement. On le voit bien venir. C'est assez incroyable. Bah, par rapport à Alien de Ridley Scott, voir qu'on crée cet extraterrestre, cet alien nous-mêmes, que c'est une machine, on ne s'y attendait pas, on ne le voyait pas comme ça. Pour revenir sur Fondation, tu m'avais parlé de quelque chose de très intéressant. Je t'avais dit que je venais d'entendre Quelqu'un m'avait raconté que Elon Musk, en fait, tout son projet de conquête spatiale vers Mars, en fait, c'était bidon et que son seul objectif, c'était d'aller faire de la capture d'astéroïdes pour faire du minage sur les astéroïdes et récupérer des métaux, matériaux hyper précieux et continuer à s'enrichir. Donc, en fait, cette idée est quand même assez marrante. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit que ça te parlait. Mais tu m'as dit aussi, et ça j'ai trouvé ça incroyable, que Elon Musk te faisait penser à un personnage très important du cycle de fondation, un personnage que j'adore et qui a une importance aussi énorme, notamment parce qu'il n'y a pas justement d'autres civilisations aliens comme on peut les imaginer, qui est celui du mulet.
Tout à fait. Alors, en fait, ça, dans Fondation, on va dire que donc, l'humanité est sous une double observation. Une observation passive de l'intelligence artificielle qu'on retrouvera vraiment à la fin des romans. Je suis déjà là, je spoil, c'est affreux. Et une autre observation qui est la seconde fondation, donc qui sont les psycho-historiens qui restent dans l'ombre pour essayer de tirer les ficelles de l'histoire de l'humanité pour essayer d'atténuer un chaos qui pourrait, s'il ne faisait rien, durer 20, 30 000 ans, à essayer de le réduire à 1000 ou 2000 ans. Bon, c'est le principe, c'est le prétexte du roman. Et donc, pour les psycho-historiens, l'humanité est paramétrable. Donc, de même manière que l'IA, elle ne sait pas ce qu'est une lettre, donc elle parle en token, bah pareil pour les psychohistoriens, l'individu humain n'a pas de valeur, et ce ne sont que des tokens qui remplissent leurs équations. Mmh. Jusqu'à l'arrivée d'un personnage, qui est le mulet, et qui est quelque part un extraterrestre, puisque...
C'est ça, un petit peu, exactement.
Puisque le mulet a la capacité de la télépathie. Donc c'est un mutant, qui a la capacité d'influer le comportement des gens qui sont autour de lui. Et donc, c'est pour ça que pour moi, un Elon Musk, il est un petit peu ce personnage qu'on n'attendait pas, cet agitateur, à sa manière, Elon Musk, donc, par son enthousiasme, par sa psychologie, par les moyens financiers qu'il a. Il a la même influence que le mulet a dans les histoires de...
Par X, Twitter, qu'il a racheté aussi.
Exactement, voilà. Et donc, il est un agitateur d'un écosystème qui était l'industrie spatiale qui ronronnait entre industrie et pouvoir régalien de recherche, d'observation, de télécommunications stratégiques, oui. Etc. Et donc, il est cet agitateur. Après, quoi qu'il fasse, effectivement, peut-être que derrière toutes ces actions, c'est le mining qui l'intéresse. On s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'accélérateur qui le représente. Où tout d'un coup, comme le fondateur d'OpenAI d'ailleurs à sa manière, mais si ce n'est que là il est tout récent. Non,
100% d'accord, Olivier. On parle de Elon Musk, une personne entre ses mains, une personne toute seule qui peut faire avancer entre guillemets le progrès technologique et dans certains domaines de plusieurs dizaines d'années. Comme le dit aussi Sun Masayoshi en parlant de Sam Altman, d'OpenAI et de Ilya Sutskever, voilà, Sun Masayoshi, donc un grand investisseur japonais de SoftBank, te dit, ce sont les personnes, ces chercheurs top IA générative sont en ce moment les chercheurs, les personnes les plus importantes du monde au niveau du progrès. Et on les compte sur les doigts de la main, quoi. Grosso modo, il ne faut pas les perdre.
Alors, en fait, moi, je ne sais pas si ce sont des accélérateurs. En tout cas, ce sont des agitateurs. C'est-à-dire qu'ils permettent de sortir, en fait, quand on fait de la prospective, pour faire simple, on va chercher les petits éléments, les bifurcations qui vont faire sortir la perception que l'on a des événements, des rails, de la paresse, de la continuité évidente, etc. On cherche à la fois des ruptures de la linéarité, hein. On cherche des accidents, donc on y cherche à identifier des signes noirs de Taleb, hein, donc ces événements avec un très faible taux de réalisation, mais qui néanmoins adviennent.
Ouais.
Et on cherche des transgressions. Parce que les transgressions, bah, c'est le non-dit, le non-pensé, et qui va arriver. Et donc, Musk est exactement à la fois un accident, une rupture et une transgression dans les actes qu'il pose. Donc, je ne sais pas si la direction dans laquelle il va est la bonne direction. La valeur morale, ça ne me regarde pas. Mais ce que je vois dans une vision macro, c'est qu'il a transformé un domaine, par exemple l'industrie spatiale, et on voit très bien que l'Europe est en train de se chercher. L'Europe qui n'a jamais eu de politique spatiale claire, à savoir présence ou non de l'humanité, à savoir investissement massif ou pas massif pour une présence hors Terre, etc. Enfin, on pourrait... Voilà. Et que n'ayant pas cette volonté politique, l'Europe s'est retrouvée démunie de lanceurs, puisqu'on a accepté que Ariane 5 ne soit plus produite alors qu'Ariane 6 n'était pas encore en capacité de tir, ce qui fait que les derniers satellites Galileo qui sont à la base de l'autonomie stratégique européenne ont été lancés par des Super Heavy, des Falcon Heavy de
Musk.
De Musk, de SpaceX, ouais. Donc le concurrent d'Ariane 5. Voilà. Donc, voilà. Donc ça agite. Mais il y a un autre agitateur, là, qui est beaucoup plus institutionnel, c'est la Chine, dans le domaine spatial. Donc, et c'est là où c'est intéressant, c'est de voir un petit peu tout ce...
Bien sûr.
Toute cette poussière.
Et alors, toute cette poussière qui peut être polarisée aussi, hein, autour des GPU de Taïwan, en fait, qui sert aujourd'hui, donc qui est entre la Chine et les États-Unis, et Taïwan, TSMC, et donc la production de toutes ces puces dont on a besoin pour faire avancer l'intelligence artificielle générative. Quand même un enjeu qui fait froid dans le dos, quoi.
Oui. Non, mais là, il y a les enjeux sont bien entre développement industriel, donc on va dire dans le tangible, et développement industriel informatique pour développer des outils comme des IA génératives, prédictives, etc. etc. Là, il y a des enjeux géostratégiques. Liés à l'industrie qui sont...
Poutine avait dit il y a quelques années, avant de déclarer la guerre à l'Ukraine, il avait dit: celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle maîtrisera le monde. Et c'était, tu vois, c'est une phrase qu'il a sortie il y a peut-être 10 ans. Je trouve ça assez incroyable. Et aujourd'hui, tu vois, justement, je me posais la question, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ça en Russie? Est-ce que tu vois, justement, ils sont trop fermés, trop mobilisés, justement, par rapport à la guerre, et enfermés au niveau international? Mais quand on a cette phrase qui a quand même résonné, hein, pendant quelques années, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, et comment on laisse, en fait, d'autres puissances internationales dont on vient de parler, les États-Unis et la Chine, avancer, quoi?
Alors, plus que celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle, moi je pense que c'est les forgeurs de GPU qui sont à la base d'un pouvoir sur le monde.
D'accord.
Donc effectivement, est-ce que Taïwan, enfin, est-ce que, en fait, c'est une question, est-ce qu'il faut laisser que Taïwan être la principale place de production de ces GPU? Ça, c'est, on peut s'interroger sur ça. Est-ce qu'il ne faut pas que l'Europe Alors, elle est en train de le faire, hein, mais
oui, et les États-Unis aussi. Les États-Unis aussi, mais ça va prendre un moment de réussir à redévelopper en fait.
Et ce même Poutine qui a eu cette phrase, mais on peut la tempérer. Il était quand même de ceux qui, quand un certain Elon Musk est venu en 2012 pour lui parler de son projet d'un lanceur réutilisable, d'un lanceur atterrisseur.
C'est vrai.
Ils ont rigolé au nez, comme le reste des agences spatiales du monde entier. Elon Musk était prêt à leur racheter des anciens missiles balistiques pour les transformer en lanceurs, alors que la Russie avait besoin de liquidités, mais ils n'y croyaient tellement pas. Ils disaient, mais c'est bon, allez. Et on a vu ce que, et à la limite, on peut dire merci à toutes les agences spatiales d'avoir décliné l'invitation de Musk, parce que comme ça, il a pu développer SpaceX.
Évidemment.
Et être l'agitateur. Et là, moi, j'attends le Flight 4 là, de Starship pour le mois de mai, parce que là, on va dire, on est dans une période un petit peu particulière. Ariane 6 ne vole pas encore, et deux, Starship ne vole pas toujours.
Ouais.
Et il va falloir voir qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça... Et je pense que si Starship vole, là, ça va changer, il va y avoir un changement de paradigme énorme.
Starship, donc l'énorme vaisseau d'Elon Musk, c'est ça le...
C'est ça, exactement, ouais. Ouais. Qui va être en capacité d'emmener jusqu'à 150 tonnes en orbite basse et 100 tonnes en orbite cislunaire, voire Mars, dans le meilleur des cas, en le boostant. Hein, mais, c'est-à-dire que là, on change d'échelle. Quoi, c'est-à-dire que...
Mais et Starship, attends, on est sur quelle année, sur ton calendrier en tout cas?
Bah, là, ils en sont au quatrième essai qui a commencé en 2023. Oui. Il y a eu le troisième essai, c'était en mars. Donc, il y a un quatrième essai qui est prévu en mai. Donc, de l'assemblage à la fois du gros booster,
oui,
et du vaisseau. On a eu, au moment du vol du Flight 3, on a eu des images extraordinaires du Starship en haute, oui, atmosphère, donc à 100 et quelques kilomètres, avec une ionisation de l'atmosphère, enfin des trucs, enfin voilà. Donc ils sont à deux doigts de changer énormément de choses si ça marche.
Bien sûr.
Et si ça marche, ça peut faire mal, très mal à certains industriels. C'est pour ça qu'on voit se développer en Europe des petits lanceurs, parce que si Starship effectivement va changer d'échelle sur des grandes quantités, etc., etc., ouais, il n'empêche qu'il y aura quand même un marché pour des plus petits lanceurs. Et c'est pour ça que, entre autres, l'Allemagne demande à être soutenue, comme l'est l'Italie avec son lanceur Vega, d'être soutenu dans le développement de petits lanceurs.
D'accord. Passionnant. Et je vois qu'en plus, c'est des sujets qui sont pas si lointains que ça. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Olivier, pour finir, toi, donc, est-ce que tu penses que l'IA générative va nous amener de grandes découvertes, de grandes possibilités, au-delà de l'utilisation de créer des chats ou d'avoir de la productivité sur nos outils de bureautique?
Il est évident que l'IA générative ou prédictive va continuer à transformer le monde. Quand on voit que l'IA, par exemple, découvre des nouvelles molécules, fait des pliages de molécules que l'humanité n'aurait pas pensé à faire, etc. Donc voilà, c'est-à-dire
que... Là-dessus, je recommande à notre audience, j'ai vu hier, je ne sais pas si tu l'as vu, un TEDx avec un TED avec Demis Hassabis, qui était interviewé, qui qui vient d'être enregistré. Et c'est la première fois dans ce TED que Demis Hassabis, donc il prend 5 minutes, tu vois, pour expliquer ce que ça veut dire le protein folding, donc le repliement des protéines et tout ça. Il explique, il le montre, il te montre même des images, tu vois, comparaison de leur modèle et de ce que c'est en 3D. C'est extra. Ça fait des années qu'on en parle, j'avais jamais compris ce que c'était, mais dans ce TED avec Demis Hassabis, en tout cas, c'est hyper clair.
Donc voilà, donc on pourrait parler de molécules pour des nouveaux matériaux, des nouveaux médicaments, etc. Donc des nouveaux bien antibiotiques. Enfin, voilà, c'est-à-dire que voilà. Mais par exemple en archéologie, décrypter des langages qu'on n'arrive pas à traduire. Voilà, donc il y a, comme je disais, peut-être que l'IA va nous permettre de comprendre notre environnement animal avec les cétacés, les primates, etc. Donc, c'est-à-dire que oui, l'IA, elle va continuer à transformer, à accélérer les mutations de notre monde. C'est évident. Et ça, c'est quelque chose qui est lancé qu'on n'arrêtera plus.
Ça va être complètement dingue. On m'avait déjà parlé, j'avais reçu Valentin Schmitt ici, donc un ami qui m'avait dit que avant de passer sur un God mode, enfin donc une IA omnisciente, l'IA serait peut-être plutôt sur un dog mode, donc une IA qui comprendrait, tu vois, les chiens ou les baleines, tout ça. Et ça, c'est sûr que ça va être un vrai sujet, parce que cette IA générative, avec ça, elle peut très très bien comprendre en effet le langage. Hein. C'est un petit peu notre pierre de Rosette moderne qui apparaît en émergence sur ces, en propriété émergence sur ces modèles pour l'instant.
Peut-être, peut-être.
Voilà. On va voir.
En fait, c'est-à-dire que une chose est sûre, c'est que l'IA est une pierre de Rosette pour changer le regard qu'on porte sur le réel. Ça, c'est sûr. Voilà.
Très intéressant. Ouais. IA pierre de Rosette. J'aime bien dire aussi pour moi quand même que l'IA c'est aussi un peu, tu vois, une expression de l'intelligence collective. Tout ce qu'on a mis sur Internet, tu vois, depuis des années, au final que c'est un peu, tu vois, la voix, une voix de tout le savoir humain.
Dans le cas des LLM. Mais ouais. Si on va vers les prochains algorithmes qui devront être beaucoup plus légers et s'affranchir de l'apprentissage massif, donc à l'arme lourde, tels qu'ils le sont maintenant, il ne faut pas oublier qu'un être humain, il n'a pas besoin d'avoir la bibliothèque du Congrès dans la tête pour être humain et pour être créatif et pour être imaginatif et pour être disruptif. C'est là où il y a un...
Mais moi, oui. Alors, et moi, tu vois, moi, je n'adhère pas à ça. Moi, je pense que on est sur quelque chose qui reste très neuf, tu vois, et qui va avoir le temps, justement, d'évoluer énormément, tu vois.
Moi, je dis juste que les algorithmes tels qu'ils sont maintenant sont archaïques par rapport à ce qu'ils seront qu'ils ont vocation à s'alléger et à s'affranchir. Par exemple, des apprentissages massifs tels que qu'en ont besoin les LLM. Quoi, voilà.
Mais alors, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu présentes, tu vois, cette projection. Mais parce que tu vois, c'est Yann Lequin aussi qui peut parler de ça. Mais parler plus, tu vois, de la comparaison, tu vois, de l'être humain ou de son apprentissage, tu sais, par rapport à sa puissance, la puissance électrique de son cerveau. Versus l'IA, sans parler, tu vois, de la puissance future et du développement futur. Olivier, est-ce que toi, tu as une timeline pour l'intelligence artificielle générale ?
Non. Alors, en tant que prospectiviste, ça fait des années, que je me suis dégagé du compte des années. J'utilise une échelle qualitative du temps qui part du présent. Après, l'étape suivante, c'est le programmé. Après, c'est l'accessible. Après, c'est le probable, il y a l'éventuel et le lointain. À chaque fois, si le présent est figé, le programmé, pareil, là, on commence à voir les briques du Lego, mais on n'a pas vraiment de possibilité de les bouger. Au temps de l'accessible, on peut commencer à déplacer les briques du Lego. Au probable, on va fabriquer les briques du Lego. À l'éventuel, on va concevoir les briques du Lego. Au lointain, on est un petit peu libre de faire ce que l'on veut. Mais la seule chose qu'il faut que la prospective s'impose, c'est de rester sous le couperet de la réalité, de ne pas sortir un lapin blanc du chapeau de magicien. Donc, je n'ai pas de timeline. On va dire que dans les 5 à 15 ans, 20 ans qui viennent, oui, ça va se couer dans le landerneau. Oui, d'accord, voilà. Mais
je pense qu'il faut, il faut s'attendre à ce que ça secoue. Et je pense que ça. Et donc. Parlons-en au maximum aussi pour essayer de. Je pense que c'est en parlant, en communiquant aussi, qu'on sera les plus adaptables, les plus à même, et en utilisant aussi l'IA. Et ça, c'était le choix ou aussi l'ambition de sortir GPT 3.5 le plus rapidement possible de la part de.
Mais c'est vrai que c'est là ce que tu viens de dire, c'est essentiel. L'humain est adaptable. Par rapport à un lion, à un singe, par rapport à je ne sais quoi, à une dorade, à une rascasse, on a ni la force, on n'a ni les ongles, ni le poison. Qu'est-ce qui fait que l'humain est ce qu'il est, alors que c'est un machin rose sans rien. C'est pas les outils, non. C'est pas son. Le seul truc qu'il fait, c'est qu'il a un cerveau qui est plastique. Nous sommes adaptables. Nous sommes adaptables à tout.
C'est comme ça. Très intéressant, super de finir là-dessus. Je pense que c'est ce qu'on voit avec les LLM. Sam Altman le dit aussi. On est surpris par, en tout cas, la vitesse d'adaptation à ces modèles. On finit par même plus être surpris tellement ça nous semble évident. Olivier, dernière question, je suis obligé de te la poser, mais je veux vraiment une réponse en deux mots. Un livre et un film de science-fiction préféré.
Alors, j'ai beaucoup parlé des œuvres d'Asimov qui sont pour moi qui sont essentielles. Mais en fait, je vais parler de deux. Alors, un, le film, donc c'est Blade Runner. Le premier pour moi, il est fondamental à la fois au niveau conceptuel, mais au niveau aussi du film en tant qu'œuvre artistique, puisqu'il a été fait au temps où il n'y avait pas d'ordinateur. Donc tous les effets spéciaux ont été faits avec des maquettes, avec des masques et des contre-masques. Enfin, donc il y a une intelligence artistique extraordinaire qui est au service de l'intelligence prédictive, de l'intuition de l'œuvre. Et dans le même esprit, où il faut bien se rappeler que ces œuvres, elles ont été créées alors qu'on n'était pas baigné dans cette culture permanente, c'est Le Neuromancien de Gibson, qui sort en 1984. Or, en 1984, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de World Wide Web. Hein. Les vitesses de communication de réseau étant kilobits, 56 kilobits. Il faudra attendre 1989 pour passer à 1,5 mégabits seconde. Donc, il a tout envisagé. Il a envisagé le métavers, il a envisagé le World Wide Web, il a envisagé l'IA, et les luttes entre humanité et puis intelligence. Voilà. Et je trouve que ces œuvres primitives montrent le génie de l'humanité, où avec très peu d'éléments, quand on les assemble, on arrive pourtant à faire des œuvres qui sont fortes d'intuition et de messages. C'est le cas pour Asimov sur la robotique, c'est le cas de Blade Runner sur notre monde, etc. Et c'est le cas de Gibson avec le Neuromancien.
Merci beaucoup, Olivier. Merci pour ces messages positifs aussi. Ça fait du bien. Je pense qu'il faut se réjouir de toutes ces nouvelles inventions, de toutes ces innovations qu'on a maintenant à disposition pour de temps en temps gratuitement ou pour $20 par mois. C'est quand même extraordinaire. Je vous encourage tous à aller écouter les podcasts passionnants d'Olivier. Les échos du futur. Vous verrez, c'est super. Il y en a plein en plus. Tu m'as dit que tu en avais encore plein sous le coude. Ouais. Olivier, merci beaucoup. J'ai adoré faire cet entretien avec toi. Et je te dis
à très bientôt. À très bientôt. Merci. Ciao.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt.